Nous sommes de retour dans l'interview de l'Auberge Espagnole et je suis toujours en compagnie de Léa et Noëm, bénévoles au Monocle. Elles sont venues nous parler de la marche lesbienne qu'elles organisent le dimanche 26 avril à l'occasion de la Journée mondiale de la visibilité lesbienne. Quelles sont vos revendications durant cette marche ?
Alors, on a plusieurs revendications. Je ne sais pas par où commencer.
Vous avez quatre grands points.
Ouais, on a quatre grands points. Donc, on a lesbienne contre la récupération. Il faut savoir que souvent, les luttes queer de manière générale, mais du coup aussi les luttes lesbiennes, sont récupérées politiquement, et notamment à Montpellier. Il faut savoir, par exemple, à la mairie, généralement, lors de la marche des fiertés, on a le fameux drapeau montpellier-thème qui est déployé
sur
l'Arc de Triomphe. Donc, c'est un beau geste. Mais concrètement, à l'année, ce n'est pas des choses qui sont ressenties par les personnes queer et notamment les personnes en situation de précarité qui ne sont pas forcément axées à l'aide nécessaire que la mairie pourrait fournir, entre autres.
Concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez comme action de la part de la mairie ?
En plus d'aide pour les personnes précaires, parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui sont mises à la rue et qui n'ont pas d'aide au logement, etc. Est-ce que tu as d'autres idées, Noëm ?
Un réel financement aussi des associations qui peuvent exister sur Montpellier, qui souffrent quand même d'une grande perte de revenus depuis plusieurs années.
C'est dû à quoi ?
aux politiques générales qui quand même se droitisent énormément et on donne de moins en moins de moyens aux associations et notamment aux associations queer, féministes, etc.
On peut avoir par exemple une pensée pour le planning familial qui est vraiment dans de grosses difficultés, notamment par le manque de subventions.
Par rapport à la reprise de l'extrême droite aussi, vous mentionnez donc une reprise de votre image par l'extrême droite. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce point ? Est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est assez régulier que c'est vrai que les identités queer de manière générale sont utilisées à des fins en particulier racistes. En projetant une image homophobe sur les personnes racisées et donc qui justifierait en fait le traitement qu'on fait de ces personnes racisées, ou par exemple c'est très courant qu'on puisse entendre à la radio, à la télé, parler des militants LGBT qui luttent pour la Palestine alors qu'ils se feraient vous avez l'idée. Et nous, c'est vrai qu'on s'oppose fermement à ces idées-là parce que déjà, les personnes queer et racisées existent, ont une place importante dans nos communautés et ont le mérite qu'on se batte pour elles. Et les personnes racisées, de manière générale, c'est une image assez violente sur ces personnes-là. Et nous, nous ne sommes pas des témoins et des justificatifs de racisme et de violence.
Je trouve ça d'autant plus violent que ça nie l'existence de personnes qui sont par exemple lesbiennes et musulmanes, lesbiennes et arabes, et toute autre minorité discriminée qu'on considérait impossible pour elles d'être queer. Et en fait, c'est super violent parce que ces personnes, elles existent vraiment et elles se prennent tous les jours des remarques comme quoi, c'est impossible pour elles de concilier leur foi et leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Nous, c'est important de lutter contre ces idées-là parce que si ces personnes-là existent, et elles disparaîtront pas, quoi.
Vous parlez aussi de psychiatrisation. Vous dénoncez, je cite, la psychiatrisation qu'ils exercent ici sur les personnes LGBT et qui sert encore aujourd'hui à nous priver de nos droits. Avez-vous un exemple de cette psychiatrisation à l'heure actuelle ? Parce qu'on a l'impression que c'est fini, qu'on laisse ça dans les années 80-90.
Quand on parle de psychiatrisation, on ne parle pas forcément de thérapie de conversion, par exemple. On parle de quelque chose d'un peu plus sournois, de qualifier les personnes queer, lesbiennes, comme étant instables, comme étant toxiques, comme étant pas aptes, par exemple, à avoir des enfants, ce qui justifie souvent de les enfermer dans des hôpitaux, par exemple, de leur retirer la garde de leurs enfants et de leur retirer de manière générale toute leur autonomie. C'est quelque chose qui est malheureusement encore très courant puisque, socialement parlant, l'identité queer reste hors de la norme.
Et donc, selon vous, cette psychiatrisation, elle vient des idéaux de la société? Oui. Et du coup, ce serait ça, selon vous, concrètement, qu'il faudrait modifier pour pallier à ça?
Oui, en gros, ça s'appuie beaucoup sur les normes et ce qu'on attend. Par exemple, quand on parle de la perte des gardes d'enfants, souvent, ce qu'on va voir comme schéma, c'est des femmes qui sont mariées, qui ont eu un enfant avec un conjoint, donc un schéma très hétérosexuel, hétéronormatif, et qui vont découvrir ou enfin accepter, parce que ça peut prendre du temps, à accepter son orientation sexuelle et accepter qu'elles sont lesbiennes. Et du coup, ben, mettre en place dans leur vie les changements qui correspondent. Et donc là, on va penser que ce sont des personnes instables et qu'elles sont plus aptes à garder leur enfant, alors qu'en fait, c'est juste une question de comment s'accepter et se reconnaître dans une société où on est discriminé, où à tout moment, on risque d'être agressé, d'être violenté. Et donc, du coup, ça prend plus de temps pour certaines personnes et ça n'est pas gage d'instabilité de s'accepter à un moment, de pouvoir être qui on est, aimer qui on souhaite.
Et également, il est vrai qu'il y a quand même une question importante de la santé mentale dans la communauté queer et que c'est quelque chose dans lequel il est très peu investi. C'est un petit peu mieux, ça progresse quand même avec des dispositifs, mon psy, etc. Mais ça reste très peu, alors que c'est une communauté qui est très touchée par les questions de santé mentale. Et de manière générale, les soignants qui peuvent nous accompagner ne sont pas du tout à l'écoute de nos besoins et des spécificités de nos suivis.
Et donc, selon vous, il faudrait faire quoi concrètement pour accompagner mieux psychologiquement ?
Alors déjà, il faudrait pouvoir former les soignants à ces spécificités de parcours, pouvoir les former par exemple à accompagner des personnes trans, à les accompagner dans leur parcours sans violence et notamment dépsychiatriser l'obligation de parcours qui légalement n'est pas obligatoire mais qui est fortement encouragée, disons, par la majorité des endocrinologues, etc. Mais la formation.
Vous avez aussi une pensée pour les personnes en zone rurale, pour qui justement vous disiez le fait de s'assumer comme une personne lesbienne, ça peut être difficile. Et du coup, vous mentionnez que la difficulté est encore plus difficile dans les zones rurales. Qu'est-ce que vous proposeriez concrètement? Quelles sont vos revendications par rapport à ça?
Alors, en gros, on pense notamment aux personnes dans les zones rurales, notamment face à ce qui est arrivé à Caroline Grandjean-Pacou, donc cette enseignante qui s'est suicidée à la rentrée 2025.
Dans le Cantal.
Oui, suite à un harcèlement de la part de parents d'élèves et où elle n'a pas été soutenue par l'éducation nationale, donc très isolée. Et en fait, elle a aussi été très isolée dans sa situation parce qu'elle était dans un milieu rural où c'était dur de se retrouver en tant que personne queer. Et donc, elle n'avait pas de moyen de parler, de partager son vécu, d'être reconnue dans ce qu'elle vivait, en dehors de son,
De son lieu de travail.
De son lieu de travail, quoi.
Et d'ailleurs, les syndicats avaient alerté à plusieurs reprises le bureau de l'éducation nationale du Cantal, qui n'a jamais répondu. Et du coup, à ce propos, l'enquête administrative, elle pointe une défaillance institutionnelle, mais refuse de reconnaître une faute personnelle de la part des personnes du bureau. Et le ministère de l'Éducation nationale avait proposé une réparation financière qui a été refusée par la compagne de la victime. Donc vous aimeriez concrètement faire quoi dans ces zones rurales?
En gros, c'est avoir la possibilité de soutenir financièrement les collectifs qui se montent, parce qu'il y en a. Il faut savoir que moi, je suis assez fascinée, mais là, dans l'Hérault, de façon très récente, cette année et depuis l'année dernière, il y a beaucoup de petits collectifs vers l'ODEV, vers CET, etc., qui se montent et qui veulent porter une présence queer dans les milieux plus ruraux, plus isolés. Et en fait, c'est peut-être accompagner mieux ces collectifs-là, mais c'est aussi sanctionner quand il se passe quelque chose de l'ordre de la discrimination homophobe ou sur l'identité de genre, que ces sanctions soient appliquées pour qu'on comprenne que c'est pas normal qu'il y ait de la discrimination, même dans ces milieux-là.
Et on le comprend, du coup, cette marche, c'est l'occasion de rassembler pour mieux peut-être mobiliser ces collectifs dans les zones rurales. Je vous vois acquiescer à ce propos. Et est-ce que vous avez, pour finir, un point que nous n'avons pas abordé, que vous souhaitiez
Je me permets de développer sur les questions des zones rurales aussi. Moi, j'aimerais bien encourager en fait les gens à rejoindre ces collectifs qui existent. Je pense aux Fiertés du Vigan, je pense à Cœur Cœur Héros.
Fiertés du Vigan, qui sont où?
Au Vigan.
C'est un village?
Oui, c'est le Vigan dans le Gard.
D'accord. Mm-hmm. Ensuite
Et nous, avec plusieurs associations et collectifs à Montpellier, on tente de construire un réseau régional d'associations et de collectifs LGBT. Donc on s'associe avec Queerset, par exemple, et avec Cœur Cœur Héros et d'autres associations avec qui on monte, par exemple, du covoiturage pour aller se soutenir les uns les autres sur différents projets. Et voilà. Il y a un mot aussi, c'est... n'hésitez pas à bouger, à vous rapprocher des collectifs, même si c'est pas pour vous engager à l'intérieur, rapprochez-vous d'eux et donnez de la force, donnez de l'énergie et voilà.
Et où est-ce qu'on peut suivre vos actualités?
Alors, on a un Instagram où on publie le plus régulièrement qui s'appelle le monocle-du-bas MTP. On a aussi un tout nouveau site, le monocle MTP sur Odoo. Mmh. Et on a aussi également un Facebook, le monocle MTP.
Pour rappel, la marche aura lieu dimanche 26 avril à 18h à la place de la Comédie et un atelier pancarte sera organisé samedi 25 à 15h au parc Clémenceau. Merci Noëm, merci Léa.
Merci à vous.
Merci beaucoup.